France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 24 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, bars et restaurants fermeront samedi à Aix et Marseille. Mesure phare annoncée hier soir par le ministre de la Santé pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de Covid-19. La carte des nouvelles mesures sanitaires dès le début du journal après les autres titres.
Muse de la rive gauche, chic et libre, chanteuse et actrice, Juliette Gréco a aussi inspiré la jeune scène française. Elle est morte hier à 93 ans. Pour la première fois, une étude s'est penchée sur la situation sociale des femmes qui ont recours à l'IVG. Et puis le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis bouscule le monde de la pub. Uncle Ben's va disparaître des paquets de riz.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, vous le disiez Agnès. Hommage à Juliette Gréco avec le directeur musical des antennes de Radio France, Didier Varro, et la chanteuse Olivia Ruiz. À 8h20, le grand entretien de la matinale. Deux invités aujourd'hui, la professeure Anne-Claude Crémieux, elle est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et le professeur Philippe Juvin, lui dirige les urgences de l'hôpital Georges Pompidou, il est par ailleurs maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Vos questions, j'imagine qu'elles seront nombreuses ce matin, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, mais elles sont, et nous en sommes convaincus, nécessaires. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Ces dispositions, elles sont temporaires. Elles sont malheureusement les seules de nature à limiter les contaminations. L'objectif est qu'elle ne dure pas plus de 2 semaines.
C'était donc hier soir lors de la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran, le visage fermé, annonce de nouvelles mesures strictes, cartes et tableaux à l'appui. Il exhorte les Français à réduire leurs interactions sociales et à ne pas céder à la tentation, car les chiffres sont mauvais. Plus de 13 000 nouvelles contaminations en 24 heures, 130 nouveaux malades admis en réanimation et un taux de positivité des tests qui continue de progresser à 6,2%. La France désormais divisé en plusieurs zones, du rouge clair au rouge écarlate, avec de nouvelles restrictions dans les grandes villes, en fonction, Véronique Julia, de la circulation du virus.
Aix-Marseille et la Guadeloupe en rouge écarlate, c'est l'alerte maximum, avec tous les indicateurs qui clignotent. Une circulation intense du virus, même chez les plus âgés, et des réanimations remplies d'au moins 30% de patients Covid. Ici, ce n'est pas encore le reconfinement local, on fera tout pour l'éviter, insiste Olivier Véran, mais on serre la vis le temps qu'il faudra, avec fermeture totale des samedi, des bars et des restaurants et le télétravail dès que c'est possible. Un cran en dessous, en rouge, c'est l'alerte renforcée. Pas encore de grosses tensions en réanimation, mais un taux d'incidence supérieur à 150 qui n'épargne plus les personnes âgées. Sont concernés Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris et sa petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Ici, dès samedi, les grands rassemblements seront limités à 1000 personnes. Les fêtes locales et étudiantes seront interdites. Les rassemblements aussi de plus de 10 personnes. Dès lundi, les bars devront fermer plus tôt également, avant 22h en tout cas. Enfin, en rouge clair, en rose, en fait, c'est l'alerte simple, un taux d'incidence préoccupant mais pas encore inquiétant chez les personnes âgées et sans impact en réanimation. Le préfet décide seul de ce qu'il faut faire, l'œil rivé sur l'évolution des chiffres. 4 villes peuvent basculer et sortir bientôt de ce rouge clair, Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand.
Des annonces qui ont aussitôt provoqué la colère et l'incompréhension des patrons de bars et de restaurants marseillais et des élus de la région. Renaud Muselier, le président LR de PACA, parle d'une punition collective extrêmement dure pour l'économie. Même son de cloche à la mairie de Marseille où l'élu écologiste Michel Rubirola se dit très en colère.
Je ne peux pas cautionner des mesures qui médicalement ne font pas sens pour moi. Parce que la courbe des tests monte, mais avec un ralentissement, les taux d'incidence se baissent. Comment les Marseillaises et les Marseillais vont comprendre qu'on les sanctionne alors qu'on va vers le mieux? Moi, je pense que les musées, les cinémas, les théâtres doivent continuer et les bars et les restaurants doivent rester ouverts. On a eu des mesures pédagogiques en disant si vous voulez continuer à vivre, à vous rencontrer, respectez les gestes barrières. Et ça marchait. C'était un peu difficile comme partout parce qu'il y a eu l'été, les gens après le confinement se sont laissés aller, mais il y a eu une prise de conscience. Et là, on a une sanction qui est incompréhensible parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On déplace le problème. Vous croyez que les gens ils vont arrêter de se retrouver pour manger ensemble dans le privé? Vous croyez qu'ils vont mettre les gestes barrières. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, quand ils ne comprennent pas, ils prennent complètement le contre-pied de ce qui se passe.
La maire de Marseille, interrogée par Cécilia Arbona. Marseille où le taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants, soit 5 fois le seuil d'alerte. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Et pour soutenir les entreprises en difficulté, le ministre de l'économie doit annoncer de nouvelles mesures de soutien dans les zones d'alerte maximale. Bruno Le Maire qui doit s'entretenir dès ce matin avec les représentants notamment de l'hôtellerie, de l'événementiel et des salles de sport. L'épidémie qui touche également la prestigieuse école hôtelière de Lausanne en Suisse après une série de fêtes privées. Les 2500 élèves sont en quarantaine.
Il est 7h05, Agnès. La mort hier de Juliette Gréco, icône de Saint-Germain-des-Prés.
Élégante et libre, Juliette Gréco a fasciné les hommes et subjugué le public. Sa longue silhouette noire et ses yeux de jet ont conquis Miles Davis, Orson Welles, Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Michel Piccoli. Actrice dans Belphégor, chanteuse, jolie môme, Déshabillez-moi, un petit poisson. Juliette Gréco a également beaucoup inspiré la jeune génération d'artistes français. Mathieu Culeron.
Pour moi, être artiste, ça veut dire quelque chose. Être artiste, ça veut dire être Juliette Gréco.
Au début des années 2000, c'est entre autres Benjamin Biolay et Christophe Miossec qui écrivent des chansons pour Juliette Gréco dans l'album « Aimez-vous les uns les autres ». Et puis rapidement, certains jeunes artistes lui voueront une véritable passion. C'est le cas d'Abdel Malik qui chante en duo sur Roméo et Juliette sur l'album « Dante » en 2008, le début d'une longue histoire d'amour.
Juliette. Il accélère. Elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit « Tu es belle ». Elle s'engouffre dans le piège, puis elle dévie, elle dit « En ce moment, je lis Malraux ». Elle a une fausse poitrine et les fantasmes.
Un an plus tard, c'est Olivia Ruiz qui lui écrira deux chansons « Dans ma chambre de dame » et « L'ombre du vent » sur le disque « Je me souviens de tout » en 2004.
« Dans ma chambre de dame, j'ai une boîte en carton, le cercueil de son regard de jade. Et de mes premiers balilons. »
Juliette Gréco, idole des jeunes à plus de 90 ans, preuve s'il en était besoin de son audace et de son amour pour la jeunesse.
Quand la rue à Françoise Sagan m'est proche, Saint-Germain-des-Prés a pris des allures de neuf. Fort heureusement, le Peura fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre. C'est finalement normal, gros, que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux.
Juliette Gréco, c'est le titre de cette chanson d'Abdel Malik sur son album Scarification sorti en 2015. Olivia Ruiz, qui a écrit deux chansons pour Juliette Gréco, sera l'invitée d'Inter tout à l'heure à 7h50 avec Didier Varro. Juliette Gréco qui avait une idée très précise de ce qu'elle voulait chanter ou pas.
Je chante ce que j'ai envie de chanter et je suis incapable d'embrasser quelqu'un que je n'aime pas. Je suis incapable de mettre dans ma bouche, c'est presque physique, de mettre dans ma bouche des mots qui ne me plaisent pas. Alors, ça crée des difficultés.
Vous avez du mal à trouver des auteurs ?
Oui, j'ai du mal à trouver des auteurs. J'ai surtout du mal à trouver des auteurs qui puissent s'intégrer à l'intérieur déjà de ce tour de chant qui est construit avec des choses fortes, très 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 fortes. J'ai eu la chance de tomber sur un homme comme Brel, tout à fait au départ où il était complètement inconnu. Moi j'étais la première personne à chanter Brel, ce qui l'a beaucoup surpris et qu'il n'a jamais oublié, parce que c'était quelqu'un qui avait un sens de l'amitié très fort. C'était un intellectuel fort et tendre.
Un extrait du tribunal des flagrants délits en février 1981. Chanson, hommage, Juliette Gréco, femme libre et de conviction, à retrouver aussi sur franceinter.fr. En bref, dans l'actualité, garde à vue levée pour Bernard Laporte, le patron du rugby français est ressorti libre hier soir après deux jours d'interrogatoire à Paris. C'est désormais au parquet national financier de décider des suites à donner à cette enquête sur les liens entre Bernard Laporte et Moïd El Trad, le propriétaire du Montpellier Hérault Rugby. Et puis garde à vue levée également à Marseille pour les 9 personnes entendues dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de fausse procuration lors des municipales. L'enquête est en voie d'achèvement. Le parquet de Marseille décidera des suites à donner là aussi sur le plan judiciaire.
Il est 7h09, le taux de recours à l'IVG, Agnès, au plus haut en France depuis 30 ans.
Plus de 232 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées l'an dernier, selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques publiée ce matin. Deux faits ressortent notamment l'augmentation notable des IVG chez les trentenaires et chez les femmes aux revenus les plus faibles. Daniel Messager.
Pour la première fois, le recours à l'IVG selon la situation sociale a pu être analysé chez les femmes dont le niveau de vie est classé parmi les 10% les moins élevés. La probabilité d'avoir recours à une IVG est multipliée par 4 par rapport à une femme ayant un niveau de vie médian. Et c'est chez les trentenaires, 30-34 ans, que la hausse est la plus élevée, plus 4 points en 9 ans. Ça ne surprend pas vraiment. Sophie Hérault, elle est gynécologue responsable d'un centre de coordination sur l'IVG entre la ville et l'hôpital.
Les femmes, en fait, ne se sentent pas légitimes pour être enceintes avant au moins 30 ans, puisque l'âge de la première maternité est autour de 30-31 ans. C'est extrêmement mal vu au niveau professionnel. Ça ne touche pas que les femmes qui font carrière, hein, entre guillemets, mais du coup, c'est vraiment une norme sociale qui émerge et qui est de plus en plus prégnante. Et c'est vrai que les jeunes qu'on rencontre en consultation ont de moins en moins envie d'avoir des enfants tôt. C'est souvent une demande des hommes plus que des femmes actuellement dans le tête-à-tête de consultation.
Par ailleurs, la disparité régionale est très marquée. Elle varie du simple au triple selon les régions. À peine 12 IVG pour 1000 femmes dans les Pays de Loire, contre presque 23 en PACA et près de 40 en Guadeloupe et Guyane.
Une nouvelle illustration de l'impossible entente européenne en matière d'accueil des migrants au lendemain de la feuille de route annoncée par Bruxelles. La France demande à l'Italie d'accueillir le navire humanitaire Alan Kurdi qui se trouve actuellement entre la Sicile et la Sardaigne avec 125 migrants à bord. Nous y viendrons dans le journal de 7h30. Direction les États-Unis où les tensions raciales restent fortes. Deux policiers ont été blessés par balle à Louisville dans le Kentucky lors de manifestations dénonçant une trop grande clémence vis-à-vis des policiers qui ont tué en mars dernier l'afro-américaine Breonna Taylor. Des rassemblements ont eu lieu également à Boston, New York, Washington, Philadelphie. Et c'est dans ce contexte que la célèbre marque de riz Uncle Ben's, accusée de véhiculer des clichés racistes, a décidé de changer de nom et d'image. Ce sera désormais Ben's Original et sans la présence sur les paquets de ce visage d'un vieil afro-américain. Loïc Loury est à New York pour France Inter.
En juin dernier, après des semaines de manifestations antiracistes, Mars, le géant de l'agroalimentaire, propriétaire d'Uncle Ben's, avait eu ces mots. Le temps est venu de faire évoluer la marque, y compris son identité visuelle. Près de 80 ans après sa création, le riz qui ne colle jamais, dit la publicité, change de nom. Ce sera Ben's Original, plus passe-partout, avec toujours le même fond orange, mais sans le fameux visage de cet afro-américain souriant, un maître d'hôtel de Chicago, selon la petite histoire. Uncle Ben's. Le véhicule de clichés racistes aussi, notamment à travers certaines publicités ici en Allemagne. Ces derniers mois, d'autres ont fait le même choix dans un contexte de prise de conscience à l'égard des discriminations. La pâte à pancakes Aunt Jemima, l'équipe des Redskins en football américain, ou les glaces Eskimo Pie vont changer d'identité. Le groupe Mars, lui, annonce aussi financer des programmes de soutien à Greenville, Mississippi, là où le riz Uncle Ben's, désormais Ben's Original, est produit depuis plus de 40 ans.
Loïc Loury à New York pour France Inter.
Merci Agnès Soubiran.